Donc la semaine dernière, nous étions en train de parler du sujet du canon de l'Ancien Testament, de voir comment historiquement, eh bien, la Bible, eh bien, s'est compilée, hein, comment elle a été partagée, comment elle a été préservée également, et nous devions donc aborder ce soir, eh bien, la question du canon du Nouveau Testament. Et comme je l'avais dit la dernière fois, c'est le Nouveau Testament qui fait probablement le plus l'objet des critiques, des attaques de ceux qui ne veulent pas croire en son message. Et comme je l'avais souligné, moi je suis convaincu que la raison pour laquelle il y a une telle opposition, c'est à cause du message lui-même. Et le message, c'est que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu, que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, et ça, beaucoup ne veulent pas l'accepter, ne veulent pas reconnaître que Jésus-Christ, il est Dieu, il est Seigneur, qu'il est le seul par qui nous pouvons passer pour être réconciliés avec Dieu. Et donc, oui, beaucoup d'attaques sur les documents donc du Nouveau Testament. Et alors, la formation du Nouveau Testament, il faut déjà noter ceci, c'est que ce n'est pas le résultat nécessairement d'une concertation où les gens se sont dit vraiment, tiens, ça, oui, ça, non, etc. Il n'y a pas eu une sorte, on va dire, de décision arbitraire, même vraiment. Quand on lit les Écritures, on l'a vu, nous présentent le fait que Dieu est l'auteur. Il est la parole. Il est celui qui a communiqué et confier donc à des êtres humains la responsabilité de retranscrire et de préserver et de partager. Mais je crois que c'est surtout, ça a été une prise de conscience de voir que telle lettre, tel écrit était inspiré. Qu'il y avait vraiment quelque chose de différent. Hein, par rapport à tous les autres textes qui circulaient, hein, parce qu'on sait que l'apôtre Paul et les autres, hein, ils n'ont pas écrit que quelques épîtres. Il y a plusieurs lettres, hein, qui ont été rédigées et envoyées. Mais ce à quoi j'aimerais apporter votre attention ce soir pour commencer, c'est le fait que les livres du Nouveau Testament, il y a eu une progression dans cette prise de conscience de la valeur de ces documents. Et la première chose que j'aimerais vraiment souligner, c'est le fait qu'il y a eu une reconnaissance de la part de ceux qu'on appelle les pères apostoliques. Ce sont ces érudits, ces théologiens des premiers siècles, certains d'entre eux qui même avaient connu, côtoyé, hein, les disciples. Mais pendant les 4 premiers siècles, les 4 premiers siècles, il n'y a pas eu une église ou un concile qui avait décidé quels étaient les écrits, les livres qui devaient être intégrés dans un canon, hein, du Nouveau Testament, comme c'était déjà le cas pour l'Ancien Testament. Et bien avant que les églises elles-mêmes, hein, cherchent à obtenir, hein, les copies, hein, de différentes lettres de Paul, de Pierre, de Jean, etc., cherchaient donc ces lettres, ces écrits. Leurs auteurs étaient eux-mêmes convaincus, hein, que ce qu'ils étaient en train d'écrire, ce qu'ils étaient en train d'enseigner, c'était quelque chose qui venait de Dieu et qui venait avec cette autorité confiée, hein, par Dieu et qui avait autant de valeur que les écrits de l'Ancien Testament. On peut regarder à ce texte de la première épître de Pierre, par exemple, au chapitre 1er, et le verset 12, où il fait ce lien entre les prophètes d'autrefois qui avaient reçu les révélations concernant la venue du Messie, qui cherchaient même à comprendre et à saisir ces choses pour eux-mêmes, mais finalement qui avaient compris qu'ils n'étaient pas ceux à qui étaient destinées premièrement, hein, ces révélations. Lisons le texte. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, hein, pour les chrétiens à l'époque de Pierre, mais pour nous aussi aujourd'hui, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Et notez bien par quels moyens surtout. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel, hein, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alors, ça, c'est important de noter cela, c'est que les à apôtres qui ont écrit ces lettres, qui ont été inspirés de Dieu, eux-mêmes voyaient l'importance de ce qu'ils étaient en train d'enseigner parce qu'ils avaient reçu une autorité de Christ. Hein, c'était les apôtres de Christ, c'était ses messagers. Donc, ils avaient autorité de parler, d'enseigner, hein, que ce soit concernant la vie de Christ ou concernant les doctrines, hein, sur le salut, hein, sur même les choses à venir. Ils étaient convaincus que ce qu'ils enseignaient, hein, ne provenait pas d'eux-mêmes, mais de l'Esprit de Dieu. Hein, c'est ce que Paul nous dit en tout cas dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et verset 13, que ce qu'il enseignait, c'était pas quelque chose qui venait de la sagesse humaine. C'est pas lui qui en était l'inventeur, mais qu'il parlait de la part de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce que cela signifie, c'est que les instructions de Paul et des autres étaient données avec cette autorité confiée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que entre eux, certains des auteurs vont reconnaître les écrits des uns et des autres. Hein, si on regarde à ce que Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 et verset 18, il nous dit, l'Écriture dit, tu ne mesureras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors ça, c'est la partie que je voulais souligner, l'ouvrier mérite son salaire. Et ce que Paul est en train de parler ici, il est en train de parler d'un principe que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 25 et verset 4. Il y a ce commandement, tu ne mesureras point le bœuf quand il foulera le grain. Hein, c'est l'idée, hein, que voilà, quelqu'un qui travaille mérite de recevoir quelque chose pour son travail. Et donc, en faisant cela, il cite notamment donc Deutéronome, mais il cite également, eh bien, ce que l'on voit dans l'évangile de Luc au chapitre 10, hein, verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, et là, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas, hein, de maison en maison. Donc, Paul voyait lui-même, eh bien, que les évangiles, déjà en citant Luc, hein, il cite la même chose que Deutéronome. Donc il fait cette connexion, il fait ce lien, hein, entre les écrits de l'Ancien Testament et les évangiles par rapport à leur valeur et leur autorité. Pierre, hein, il avait reconnu, hein, les écrits de Paul, hein, comme étant des écritures de la part de Dieu. Hein, dans sa seconde épître au chapitre 3, les versets 15 à 16, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, hein, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. » Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Certains des livres du Nouveau Testament également circulaient déjà, hein, parmi les églises. Hein, dans l'Épître aux Colossiens, Paul y dit, au chapitre 4, verset 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc, il y avait une circulation. Il y avait cet enseignement de la part, hein, de Paul, hein, qui circulait entre les différentes églises et qui avait autorité, parce que l'autorité, c'était celle que Paul avait lui-même reçue, hein, de la part de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 27, il dit, hein, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, donc celle-là aussi. Hein, Paul soulignait l'importance, hein, de la partager, de faire en sorte que les chrétiens aient connaissance de l'enseignement qu'il a apporté dans cette lettre. On en arrive, hein, à la reconnaissance, hein, des pères de l'Église. Tout à l'heure, j'ai sauté une ligne, j'ai parlé des pères de l'Église, alors que je voulais parler des apôtres, et j'ai mélangé les deux. Désolé. Mais maintenant, on va parler donc de ces pères de l'Église qui, effectivement, hein, vont reconnaître au fur et à mesure certains de ses écrits, hein, comme étant inspirés. Ainsi, par exemple, Clément de Rome, hein, il a mentionné au moins 8 des livres du Nouveau Testament, et bon, lui, hein, il a vécu autour de 95 après Jésus-Christ. Polycarpe, qui lui était un disciple de l'apôtre Jean, donc il a connu, hein, il a eu cette, on va dire, cette relation où il était disciple, il recevait l'enseignement directement d'un apôtre. Lui-même avait reconnu 15 des livres que nous avons dans le Nouveau Testament, et ce, donc vers 108 après Jésus-Christ. On a Ignace d'Antioche, qui lui, hein, on en reconnaissait 7, hein, en 115 après Jésus-Christ. Et plus tard, Irénée, lui, va en mentionner 21, hein, en 185 après Jésus-Christ. Et Hippolyte, lui, on reconnaissait 22, hein, et donc on voit que bon, tout le monde n'était pas d'accord, visiblement. Tout le monde avait un point de vue sur certaines œuvres qu'ils estimaient être inspirées de Dieu, tandis que d'autres non. Et ce qui va quelque part apporter, on va dire, du poids par rapport, eh bien, à ce canon que nous avons aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le canon de Muratori, hein, du nom de son découvreur, hein, et c'est une copie lui-même d'un ancien manuscrit qui liste ben, les livres du Nouveau Testament, hein, et qui constitue donc la liste vraiment la plus ancienne et puis la plus complète. Et donc ce canon, il a été découvert par l'historien donc Ludovico Muratori, un Italien. Et c'est dans une bibliothèque à Milan, hein, dans le nord de l'Italie, qu'il va découvrir cette liste et qui va la publier donc en 1740. Et la copie donc manuscrite qu'il a découvert était écrite en latin et elle avait été donc datée entre le 7e et 8e siècle après Jésus-Christ. Et donc ce document-là, c'est lui-même la traduction d'un manuscrit plus ancien, rédigé, lui, en grec. Et on y a une référence donc au pasteur d'Hermas et à l'évêque de Rome, hein, en 140-155, qui amène donc à l'estimation de 170 après Jésus-Christ pour une datation de cette liste. Et cette liste-là, elle énumère 22, hein, des 27 livres qui ont été inclus, hein, dans ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament. Et donc cette liste, elle comprend tous les livres du Nouveau Testament, à l'exception de l'Épître aux Hébreux et celle de Jacques, 1 et de Pierre et 3 Jean. Alors, une première question déjà. Pourquoi une telle omission? Pourquoi est-ce que ben, ces écrits-là n'avaient pas été considérés tout de suite? Moi, j'aime à considérer la chose de cette manière. Mieux vaut ne pas se précipiter à déclarer quelque chose et plutôt prendre le temps, hein, de la réflexion. Ça démontre peut-être que vraiment l'Église primitive, l'Église des premiers siècles, faisait preuve de discernement, hein, de réflexion, de prudence avant de reconnaître certains livres comme étant inspirés et qui étaient, qui portaient, hein, l'autorité des apôtres. C'est probablement le fait que ils n'acceptaient pas immédiatement donc un livre ou une lettre qui prétendait être associée à un apôtre juste parce que ça disait, hein, lettre de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ. Parce que comme on le sait, et que je l'ai dit, il y a eu d'autres épîtres, hein, d'autres lettres rédigées par Paul qui n'ont pas été reconnues comme inspirées, hein, de Dieu. Mais si on se focalise justement sur ce qui est inclus dans cette liste plutôt que ce qui est exclu de cette liste, ça signifie que dans les 140 ans environ qui ont suivi, hein, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, les écrits fondamentaux qui ont été plus tard reconnus comme inspirés était déjà considéré comme ayant une autorité prépondérante dans l'Église et dans l'enseignement, hein, pour l'Église primitive et l'Église du premier siècle. Donc, ces livres présentent un message doctrinal qui est unifié en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que même si on n'a pas Hébreu, et si on n'a pas Jacques, et si on n'a pas 1 et 2 Pierre, ni même 3 Jean, tout le reste nous enseigne clairement qui est Jésus-Christ. Et il y a cette unité, hein, qui est évidente entre, eh bien, les évangiles et les enseignements, des apôtres concernant la personne de Christ. Et donc, la reconnaissance, hein, qui s'est faite de ces œuvres qui sont incluses donc dans le canon du Nouveau Testament. Comme j'ai dit, il y a eu une certaine progression, mais il y a eu des conciles. Hein, c'était ces regroupements donc de théologiens, d'érudits qui ont, oui, discuté, qui ont prié, hein, par rapport à ces différents écrits et lesquels, hein, devaient être vus, hein, reconnus comme étant, hein, la parole de Dieu. Ainsi, en 363 après Jésus-Christ, nous avons le concile de Laodicée qui a déclaré que seul l'Ancien Testament, avec un des livres apocryphes, hein, mais l'Ancien Testament et 26 livres du Nouveau Testament, à l'exception, hein, pour eux de l'Apocalypse, devait donc figurer dans ce canon du Nouveau Testament et devait être lu et enseigné dans les églises. Un peu plus tard, en 393, un autre concile, celui d'Hippone, et le concile de Carthage en 397, ont également affirmé que les 27 livres du Nouveau Testament compilés dans notre Bible telle que nous l'avons aujourd'hui faisaient autorité. Alors la question c'est, bah, comment? Comment ont été reconnus ces livres? Qu'est-ce qui a fait que ces hommes, hein, ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu de particulier dans ces ouvrages qui les ont amenés à les reconnaître comme étant inspirés? C'est une question importante. Hein, c'est une question importante parce que on va souvent entendre comme, encore une fois, comme argumentaire que voilà, c'est une décision qui a été arbitraire. Ce sont des hommes qui ont déterminé quelle était la parole de Dieu. Et on se rend compte que si on regarde aux étapes déjà de la révélation de Dieu à l'humanité, on sait que Dieu s'est révélé à l'humanité, on sait que Dieu a cherché à se faire connaître des êtres humains. Hein, il y a ce désir déjà de Dieu, donc de communiquer, et ça, c'est quelque chose qui est enraciné dans sa personne, dans son amour, hein, parce que la chose la plus aimante qu'un Dieu bon et aimant, c'est de se révéler, de se faire connaître à sa création, n'est-ce pas? Ensuite, on a eu la transmission réelle de la parole de Dieu par l'intermédiaire d'écrivains, d'auteurs humains qui ont retranscrit la parole de Dieu. Et donc là, on a un processus qui a été impliqué, celui de l'inspiration, hein, dont on a déjà parlé au préalable, dans lequel Dieu donc insuffla les paroles que les agents humains, ceux qui ont retranscrit, hein, la parole de Dieu, hein, telle que 2 Timothée 3,16 nous l'enseigne. Ensuite, il y a eu la diffusion. Hein, c'est lorsque la parole a été délivrée. C'est-à-dire que, bah, on a des prophètes qui ont prophétisé, on a des hommes qui ont écrit, on a des hommes qui ont envoyé des lettres, etc. Et donc, cette diffusion, c'est lorsque, voilà, ils ont parlé, hein, de la part de Dieu, ils ont révélé aux autres êtres humains ce que Dieu avait à dire à l'humanité. Ensuite, on a la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est lorsque, voilà, le peuple de Dieu, quand on parle de l'Ancien Testament, par exemple, hein, le peuple de Dieu a distingué ce qui était l'Écriture sainte, ce qui était comme venant de Dieu. Hein, et puis, dans la période du Nouveau Testament et dans les premiers siècles, on a cette même reconnaissance vis-à-vis des écrits du Nouveau Testament comme étant inspiré de Dieu. Et ensuite, la préservation, comme on en a déjà parlé, hein, grâce à laquelle Dieu, hein, la parole de Dieu a survécu, hein, jusqu'à nos jours, malgré de nombreuses tentatives, même pour la détruire, hein, et pour l'éradiquer. Force est de reconnaître que c'est quand même un document qui a traversé les siècles, et comme on l'a vu déjà avec les découvertes archéologiques, qu'il y a eu cette préservation, hein, de la parole de Dieu. Pire, on a ce qu'on appelle finalement l'illumination. Et l'illumination, c'est quoi? Mais c'est lorsque le Saint-Esprit, eh bien, il ouvre la compréhension. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il nous aide à comprendre ce qui est nécessaire pour nous, hein, de voir dans sa parole ce que nous devons recevoir et accepter. Et là encore, hein, toutes ces choses nous montrent bien la démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité, dans le fait qu'il a communiqué, il a inspiré, des hommes ont retranscrit, Dieu a préservé, et que Dieu lui-même nous aide à comprendre les Écritures par l'Esprit Saint. Donc nous croyons, oui, que Dieu a été impliqué dans chaque étape de ce processus, car pourquoi est-ce que Dieu il irait jusqu'à de telles extrémités, hein, pour inspirer sa parole et ensuite ne pas la préserver? Pourquoi nous parlerait-il et ensuite ne parviendrait-il pas à nous guider, à nous diriger pour que nous reconnaissions sa parole? Et donc cette reconnaissance de la parole de Dieu, et c'est là que je veux aussi bien souligner la chose, c'est que voilà, à travers les siècles, l'Esprit de Dieu, il a été aussi à l'œuvre. Il a été là. Rappelez-vous, quand Christ, il a donné cette promesse à ses disciples, il leur a dit que l'Esprit les aiderait à se rappeler des enseignements de Christ, de la même manière que l'Esprit, même aujourd'hui, nous aide à nous rappeler des choses que nous avons lues dans la parole, que nous avons apprises de sa parole, et de la même manière, l'Esprit a dirigé nos frères d'autrefois pour reconnaître les documents inspirés. Et donc, c'est ce qui a amené donc à la compilation de ces livres. Et ce que nous voyons, effectivement, c'est que dans cette compilation des 27 livres du Nouveau Testament, on ne voit pas un livre qui va contredire l'autre, n'est-ce pas? Même ceux qui s'amusent à voir, oh tiens, il y a une contradiction entre ce que Paul y dit et ce que Jacques y dit. Non, en fait, il y a, on va dire, comme pour les évangiles, moi je regarde de là, toi tu regardes de là. Et on a une perspective qui est différente. Parce que les deux ont raison. Quand Paul il dit que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et Jacques il nous dit, non, les œuvres, elles sont là, elles sont importantes également. Mais ce qu'il nous montre, c'est que la vraie foi, elle va produire les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, donc, vont servir de testament, servir de témoignage à la réalité du salut en Jésus-Christ. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Donc la prochaine fois, nous regarderons donc au canon des Écritures un peu plus sur les critères de reconnaissance qui ont amené nos ancêtres à considérer l'œuvre qui a été inspirée ou non. Mais simplement, le canon des Écritures n'a pas été créé par l'Église, mais c'est plutôt l'Église qui a découvert, qui a vu, reconnu l'inspiration dans ces livres. En d'autres termes, la parole de Dieu, elle était inspirée, elle fait autorité, et elle demeure ferme, comme le psalmiste nous le rappelle dans le psaume 119, au verset 89. Mais voilà, c'est simplement la reconnaissance et pas une décision arbitraire qui a été faite. Et parce que l'Église, elle est amenée à prendre des décisions et à trancher certaines choses, n'est-ce pas? Par exemple, qu'est-ce que nous voyons dans le livre des Actes au chapitre 15 concernant la question de la circoncision des chrétiens d'origine païenne?
Ils se sont rassemblés.
Ils se sont assemblés, les apôtres, les anciens. Ils ont écouté. Ils ont prié et ils ont pris une décision. Et c'était une décision d'une grande importance parce que c'était quand même quelque chose. Hein, est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut continuer à pratiquer pour tout le monde dans l'Église ou non? Mais qui a dirigé ce concile à Jérusalem pour prendre une telle décision? C'est l'Esprit de Dieu et la sagesse de l'Esprit de Dieu qui les a amenés à prendre une décision très sage concernant ce sujet de la circoncision. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas vraiment de difficulté à voir que Dieu, par l'Esprit Saint, a dirigé des hommes pour aider à voir ce qui venait de lui, ce qui devait être considéré, vu comme faisant autorité pour nous encore aujourd'hui.